Les bros du sport, Serge Touchette, bien le bonjour.
Bon matin, Simon.
Écoute, aujourd'hui, malheureusement, on doit revenir sur l'événement du décès du grand Chris Simon, un ancien matamor de la LNH, qui meurt encore une fois très jeune. Et malheureusement, c'est monnaie courante. La plupart de ses joueurs, fanats de bagarre, se rendent pas très loin, malheureusement.
Écoute, je regardais ça hier, tu sais, je faisais une liste des anciens matamors de la Ligue nationale qui sont décédés au cours des 20 ou 25 dernières années. Puis tu regardes l'âge de ces gars-là, là. Tu sais, je pense à Bob Probert. Tout le monde se souvient de Bob Probert. Espèce de, c'en était un vrai policier, lui, qui se battait à peu près, je pense qu'il se battait chez eux, il se battait partout. 45 ans, mon ami, qui est décédé.
C'est trop jeune.
Derek Bogard, 28 ans. Pardon, 38 ans. Steve Montador, 35 ans. Il a livré à peu près 60 bagarres au cours de sa carrière. 60! Wade Bielak, qui a joué notamment pour Toronto, décédé à 35 ans. Puis, ben, plus près de nous, John Cordick, tu te souviens de lui?
Oui.
27 ans. Puis Rick Perium, 27 ans. La liste est interminable. Tu regardes tous ces joueurs-là, ces bagarreurs-là, ça a laissé des séquelles physiquement et mentalement parce que plusieurs de ces joueurs-là, dont la tâche première était de défendre le coéquipier puis de planter l'homme fort de l'autre bord, là, plusieurs de ces gars-là sont tombés dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue. Cordick, c'est un cas typique. En tout cas, l'après-carrière de ces joueurs-là, ça fait peur.
Carrière, parce que ils n'ont pas que des hauts sur et en dehors de la glace, ça va pas nécessairement toujours bien non plus durant les saisons, même lorsqu'ils sont à l'honneur. Là, on le voit souvent dans des documentaires où les gars entre les games, là, ça a pas de bon sens. Les médecins puis les rencontres de ramancheurs puis de ci puis de ça pour essayer de se présenter en forme à l'autre partie.
Et le stress que ça implique pour ces gars-là avant un match, à l'idée qu'ils savent déjà dans ce temps-là, en tout cas, qu'ils étaient pour se battre au moins une fois, des fois, deux fois, sinon plus. Contre des toughs, souvent le gars le plus coriace de l'autre équipe. Fait que tu regardes ça, puis ils ont tout ça en commun, hein. Je veux dire, la drogue, la dépression, l'alcool, puis ils meurent très jeunes. Il y a quelque chose de très triste dans tout ça. Puis on voit les dégâts aujourd'hui de cette époque-là. Là, c'est moins, beaucoup moins qu'avant, là. Ce genre de hockey-là, on en a moins, et bravo, on en a moins. Mais, bon Dieu, ceux qui l'ont joué, qui ont eu ce véhicule-là, ben, c'est quelque part, c'est épouvantable.
Oui. Parlons maintenant d'Alexis Lafrenière et de M. Kotkaniemi, ancien Canadien de Montréal.
Oui.
Comme tu le titrais, j'aime beaucoup la phrase. Lafrenière et Kotkaniemi, deux premiers de classe, l'un avance, l'autre recule.
Oui, en gros, c'est ça.
Oui, hein?
En fait, Kotkaniemi, moi, je trouve que c'est une grande déception.
Bien, à part, comme je t'ai dit hors d'onde, à part avoir du fun à prononcer son nom, là, c'est en site, c'est pas mal le seul fun qu'il y a, là.
Oui, parce qu'il n'y a pas une grosse saison, encore une fois. C'est sa cinquième saison, je pense, sa quatrième saison. Il y a 23 ans. Tu sais, dans le temps, on disait, ah, il marche pas, il est jeune. Bien là, il est rendu à 23 ans. Cette année, 11 buts, 13 passes, 24 points. Différentiel de moins 3 avec une excellente équipe.
Oui.
Tu sais, c'est les différentiels, ça vaut ce que ça vaut, ça dépend avec qui tu joues. Puis il joue à peu près à peine 13 minutes par match. C'est pas les gros chars, là,
non.
Pour un ancien premier choix de repêchage. Souviens-toi, Simon devait être le joueur, le gros joueur de centre du Canadien, puis quand ils l'ont repêché, le Canadien.
Ah oui, il y avait beaucoup d'espoir là-dessus, là.
Ah, bien sûr, c'était pas la petite affaire, là. Et finalement, il s'est retrouvé en Caroline parce que les Hurricanes, ils ont fait une offre hostile. Ben, aujourd'hui, on peut remercier les Hurricanes. Je pense qu'à quelque part, ils ont rendu service aux Canadiens.
Sans le savoir à l'époque.
Oui, exactement, parce que, écoute, c'est vraiment décevant. Puis en revanche, ben, Alexis Lafrenière, il y a eu un départ modeste dans la Ligue nationale, c'est évident. C'est pas encore une super vedette, mais je pense que c'est un joueur en ascension depuis, je dirais, depuis deux ans. Puis cette année, ben, il connaît sa meilleure saison depuis son arrivée dans le circuit. Une première saison de 20 buts. C'est quand même pas rien. C'est pas la fin du monde, mais il progresse. Puis moi, je pense que la grosse différence, là, c'est que il est beaucoup plus confiant. J'ai vu quelques matchs, là. Puis là, ils l'ont mis avec des gars qui savent hockey, là. Mm-hmm. Et Panarin, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Bon, on voit l'effet que ces deux gars-là ont sur Lafrenière, qui va probablement finir la saison avec une cinquantaine de points, si c'est pas plus. Ce qui serait un sommet dans sa carrière. Comme je te dis, je suis pas convaincu qu'il va devenir la super vedette qu'on attendait lorsqu'il a été le premier choix des Rangers. Mais je pense qu'il peut devenir un maudit bon joueur.
Effectivement. Si on saute du côté du baseball, on a finalement découvert une faiblesse au grand Shohei Ohtani, l'homme de 700 millions. Et sa faiblesse, c'est son interprète. Ce n'est pas son coup de bâton ou encore son élan comme lanceur, mais bien son interprète.
Oui, ou la gestion de son portefeuille.
Effectivement.
On vient d'apprendre que son interprète, il a volé à peu près 4,5 millions. Plaçant de l'argent auprès des bookmakers en Californie,
oui.
Un État où tu n'as pas le droit de parier aux États-Unis. Il y a 40 États aux États-Unis qui permettent de parier, mais la Californie n'en est pas un. Fait que l'interprète n'avait pas l'air trop courant, mais sauf que pendant ce temps-là, il volait son chum, parce que c'était pas seulement l'interprète d'Ohtani, c'était un de ses meilleurs amis.
C'est une relation qui datait de 2013, là, c'est pas rien.
Exactement. Tu sais, souvent, ton meilleur ami, peut-être ton meilleur, ton pire ennemi, mais ça a été le cas, hey, 4,5 millions, sans que Ohtani s'en aperçoive. Il vient s'en apercevoir, c'est récent, là, puis là, l'autre fait l'objet d'une enquête, c'est une drôle d'histoire, tordue, il faut le dire. Là, il vient de perdre sa job, l'interprète.
Je ne sais pas si Shohei Ohtani a utilisé ses services pour annoncer son propre congédiement à la presse américaine. Ça serait une bonne revanche.
Oui, écoute,
Shohei annonce à tout le monde qu'il me congédie parce que j'ai volé de l'argent dans son compte. Je le verrais dire ça.
Écoute, là, mais je pense que Ohtani s'est aperçu de quelque chose récemment.
Oh oui.
Puis il pensait que la dette était moindre. Il avait dit, écoute.
Dans sa tête, c'est une coupe de 20$, pas 4 millions et demi, là.
Ouais, pas 4,5 millions, là. C'est quand même pas rien. C'est pas offert, je sais pas, moi, d'avoir signé un contrat de 700 millions. C'est quand même fait voler 4 millions et demi.
Exactement.
Par un proche. C'était quasiment son frère. Imagine-toi, c'est comme un frère pour lui, ce gars-là. Et puis finalement, ben regarde, il cherche un job aujourd'hui. Puis Ohtani cherche un autre ami, mais ça, il n'y aura pas de misère à en trouver.
Ah, il devrait en avoir quelques-uns qui frappent à la porte. Oui. Parlant de frapper à la porte, il y a un autre prodige, peut-être, qui est au camp des Yankees de New York.
Ouais, ben tu sais, Simon, les camps d'entraînement au baseball, c'est souvent la vitrine pour des jeunes joueurs, bon, qui sont bien cotés. Commencent pas nécessairement la saison avec l'équipe majeure, mais ils ont l'occasion de se mettre en évidence et éventuellement, dans le courant de la saison, ils sont rappelés. Et là, les Yankees, qui ont jamais été à court de grands espoirs, en ont peut-être un autre en Spencer Jones, écrivez ça dans vos calepins.
Mm-hmm.
6 pieds 6, 235 livres, puis il est rapide. On dit déjà que c'est un Aaron Judge qui frappe de la gauche.
Et Dieu sait qu'un frappeur gaucher de puissance chez les Yankees, ça faisait un petit bout, là.
Oui, ça c'était vrai. Puis aux Yankees Stadium, la clôture du champ droit favorise le frappeur de gaucher.
Oui, en plus.
Écoute, ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'il ne commencera pas la saison. Il a connu un bon camp d'entraînement. Là. Il a frappé 3-4 circuits, dont un de 475 pieds.
Quand même.
C'est quand même pas rien, là. Je me dis, Yankees pourrait, à court terme, se retrouver avec deux géants au champ extérieur, Judge d'un bord et puis Spencer Jones de l'autre. C'est quelque chose. Écoute, en tout cas, on en dit le plus grand bien. Et moi, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il pourrait devenir, à court terme, le prochain voltigeur de centre des Yankees de New York, qui est tout un honneur, quand même. C'est un nom à retenir, là. Moi, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler parce que je lisais des trucs sur lui, là. C'est wow! Honnêtement, ben, là,
on va lui souhaiter de devenir le deuxième Brother of the Bronx avec Aaron,
oui.
Qui vont faire les joies de ceux qui peuvent juste se payer des billets dans le champ extérieur du Yankee Stadium.
Effectivement, ils risquent de manquer de balles.
Ils vont trouver que ça coûte. Là, les gars, c'est pas vos salaires qui sont trop élevés, c'est le nombre de balles que vous pitchez en dehors du stade. Là, ça serait le fun de ralentir la cadence un peu.
Écoute, c'est quelque chose. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai
hâte de voir la dépêche dans le New York Journal qui dit « On est à la recherche d'une commandite pour acheter des balles pour les Yankees parce qu'on en manque au camp d'entraînement. » Merci beaucoup, mon cher Serge. Toujours un plaisir.
Salut, Simon.
À la prochaine.